Bonjour bien-aimé. Merci au Seigneur qui nous fait la grâce de nous réunir ce matin en son nom pour le célébrer, pour lui rendre nos actions de grâce, le remercier et aussi tirer en lui notre force. Éric l'a dit des fois, quand nous crions sécurité et paix, malheureusement, c'est pas ce qui advient toujours. Mais le Seigneur est fidèle. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Et ce matin, j'aimerais partager avec nous une parole de Jésus au début de son ministère, dans l'évangile de Matthieu. Toute une série d'enseignements de Jésus qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Selon l'évangile de Matthieu, au début du ministère terrestre de Jésus, Jésus a réuni ses disciples et pendant quelques heures, en tout cas si on suit le déroulement de l'évangile de Matthieu, Jésus a pris le temps de mettre les bases. Matthieu, dans son évangile, poussé par Dieu, nous présente Jésus comme le roi. Jésus est le roi du monde. Jésus, humainement parlant, est sous la postérité de David, hein, le roi David. C'est pour ça qu'on appelle fils de David, dans le sens qu'il est héritier de cette royauté que Dieu lui-même a établie en David. Mais bien plus, Jésus est le roi de toutes choses. Il est Dieu, fils de Dieu. Et quand on lit l'évangile de Matthieu, c'est comme ça que sa naissance et le début de sa vie terrestre nous est présenté. Un roi serviteur. Certes, il n'est pas né dans un château. Comme on dit dans le jargon courant, il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il est né plutôt dans une étable. C'est qui avait pour contrariété pour ceux qui ne voyaient pas ce signe de la royauté de Jésus. Et très tôt dans cet évangile, Jésus publie ce qui est appelé la loi du royaume de Dieu. La loi du royaume de Dieu. Je vous invite a beaucoup lu les évangiles. Si vous l'avez déjà fait, refaites-le régulièrement pour vous familiariser avec justement la vie du Seigneur Jésus-Christ. Savez que nous sommes appelés petit Christ. Chrétien veut dire petit Christ. Si nous voulons être des petits Christ, il faut savoir comment le grand Christ, le Christ lui-même, a vécu. Et les évangiles sont tout indiqués pour cela. Dans ce chapitre 5, jusqu'au chapitre 7, Jésus va clairement énoncer les prescriptions qui sont adressées à ceux qui font partie du royaume de Dieu. Vous savez, quand on fait partie d'un pays, quand on fait partie d'une structure, on a ce qu'on appelle les règles, ce qu'on appelle les statuts de la structure. C'est-à-dire, ce qui définit comment les membres d'une structure doivent se tenir en termes de droits et de devoirs. Pour une nation, ça s'appelle les lois fondamentales, notamment la Constitution et toutes les autres lois afférentes à la bonne marche, à la bonne harmonie des habitants d'un pays. Et Jésus établit très tôt, au début de son ministère, voici les règles, voici les lois qui régissent ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Après avoir établi comment on rentre dans ce royaume, et j'en ai parlé les prédications que nous avons vues il y a quelque temps, et notre frère qui a prêché dimanche dernier est revenu aussi dessus. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes chrétiennes, si nous avons fait la paix avec Dieu, si nous avons reconnu que nous étions pécheurs, pécheresses, et que aucune de nos œuvres, aucune de nos actions ne pouvait nous sauver, et que seul Jésus, de par son œuvre expiatoire à la croix, a été capable de payer le prix pour notre salut, que nous l'avons compris, et que nous l'avons accepté, et que nous avons donné notre vie à Jésus, oui, donc nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes rentrés dans ce royaume. La citoyenneté de ce royaume s'obtient non pas par les œuvres, parce que Éphésiens chapitre 2 verset 8 dit que c'est la grâce de Dieu. Le salut est une grâce que Dieu donne à tous et que chacun est invité à l'entendre et à le recevoir par la foi. Ce n'est pas nos œuvres pour que aucun de nous ne soit orgueilleux, mais c'est la grâce de Dieu au moyen de la foi. Dans certains pays, c'est le droit du sol. Ça veut dire tout enfant qui naît sur ce pays est automatiquement de la nationalité de ce pays-là. Ça s'appelle le droit du sol. C'est comme ça qu'on devient citoyen dans certains pays. Dans d'autres pays, c'est le droit du sang. Peu importe le territoire dans lequel tu nais, si tu nais d'un fils de ce pays, tu es automatiquement citoyen de ce pays. C'est le droit du sang. En Jésus-Christ, c'est le droit de la foi, par la grâce de Dieu. C'est la grâce que Dieu offre pour son royaume à tous les hommes et toutes les femmes. Il les invite à le saisir, à saisir cette grâce par la foi. La foi qui est la confiance en cette parole de Dieu, qu'elle est vraie, que ce qu'elle dit est juste, est sans défaut, sans erreur, et qu'elle est totalement, pleinement, entièrement la parole de Dieu. Et Jésus dit donc, ceux qui ont fait ce pas, voici les règles. Voici comment vous êtes invités à vivre désormais dans ce royaume. Et il commence en précisant 8 qualités du croyant, notamment du chrétien, pour être celle de la terre et lumière du monde. Vous savez, dans certains, on est en pleine période, hein, il y a ce qu'on appelle le programme de gouvernement. Il y a ce qu'on appelle aussi les hymnes nationaux et il y a les devises d'un pays. Hein. Égalité, fraternité, liberté. Jésus commence l'achat du royaume avec les béatitudes, ce qui est appelé les béatitudes. Et c'est ce que je veux que nous puissions regarder aujourd'hui, au moins 4 d'entre elles, et prochainement, nous regarderons les 4 restantes. Cette nouveauté de vie est un style nouveau que Jésus instaure. C'est un recueil d'indications qui est destiné aux hommes et aux femmes nouvellement acceptés dans le royaume de Dieu, à vivre d'une manière digne de ce royaume. Ce royaume, c'est un nouveau mode de vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Dans ce royaume, ce n'est plus la loi de la chair, donc de l'homme sans Dieu, c'est la loi de l'esprit, de l'homme avec Dieu, par le Saint-Esprit. Ce royaume, c'est une contre-culture. C'est pas une culture ordinaire dans laquelle nous sommes nés. C'est la culture que Dieu voulait depuis le départ, qu'il a encore redit et renouvelé. Cette culture, c'est un témoignage de notre appartenance. Comment les hommes sauront que nous sommes citoyens de ce royaume si notre mode de vie ne reflète pas ce royaume-là? Des fois, on dit que c'est notre civilisation qui est attaquée, c'est notre mode de vie qui est attaqué. C'est notre mode de vie qui a été mis en difficulté. C'est pour cela que nous voulons un sursaut de tous les fils et toutes les filles du pays. Il en est d'autant plus vrai pour le royaume de Dieu. Si les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu ne voient pas dans les enfants de Dieu le mode de vie que Dieu a prévus d'avance afin que nous les pratiquions, il y a un problème. Et ce matin, c'est pas le problème que je veux mettre en avant, c'est la situation normale du peuple de Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Matthieu, chapitre 5, verset 1 au verset 13. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans le vocabulaire de la Bible, l'adjectif « heureux » signifie aussi « béni ». Hein? Ceux qui sont au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est ça la bénédiction. Être béni, c'est être au bénéfice de la grâce de Dieu. Dans le monde, ceux qui n'ont pas ce vocabulaire chrétien et théologique disent « c'est un chanceux celui-là, c'est un vénard, mais nature est avec lui. Tout ce qu'il fait, finalement, il a de la chance. » Mais nous savons que c'est la bénédiction de Dieu. Car la Bible dit qu'il fait pleuvoir aussi bien sur les bons que sur ceux qui ne sont pas avec lui, parce qu'il est le créateur des hommes et des femmes. Jésus, dans cette proclamation, s'appuie, parce qu'il est le maître de la parole. Jésus est la parole. Il s'appuie sur les textes de l'Ancien Testament, dont le psaume 1, que j'ai commenté il y a quelques semaines. Les deux premiers versets du psaume 1 disent, vas-y, s'il te plaît, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » C'est la même racine du mot qui commence ce psaume que Jésus articule 8 fois dans Matthieu chapitre 5, verset 1 à 13. Dans ce vocabulaire biblique, Jésus enseigne que le bonheur résulte de la pratique de certaines vertus, de certains comportements, de certaines habitudes que Dieu approuve. Ceux qui entrent dans le royaume des cieux doivent développer dans le temps présent ses valeurs, ses vertus. Tout disciple devrait aspirer à ces vertus-là et les manifester, même si elles ne s'exprimeront pas pleinement dans ce temps, dans ces siècles présents. Le bonheur et la joie qu'elles procurent s'enracinent profondément, si bien que les aléas de la vie ne les ébranlent pas. Ça veut dire que si nous lisons ces textes, nous ne les lisons pas comme certains l'ont fait, en disant, oui, ça, c'est pour la fin des temps. Jésus parlait à des gens présents, il leur parlait là et maintenant, et on voit que Jésus ne dit pas, vous serez heureux. Il dit, heureux êtes-vous dès maintenant. Vas-y. Jésus s'adresse donc, comme je le disais tout à l'heure, à des personnes, des croyants, des disciples qui ont mis en lui leur confiance et qui commençaient à recevoir de lui la parole de Dieu, qui ont commencé à voir en Jésus l'autorité. Dans plusieurs passages des évangiles, ceux qui l'écoutaient disaient à chaque fois, il ne parle pas comme les scribes, comme les pharisiens, il parle comme ayant autorité, comme s'il était l'auteur premier de cette parole que nous connaissons et qui nous a été donnée par nos ancêtres et par nos pères. Il parle comme s'il était l'auteur. Et oui, Jésus est l'auteur de la parole. Dans l'évangile de Jean, le premier chapitre dit que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu, que la parole a été faite chair. Jésus est la parole. Cette parole est adressée aux personnes qui ont reçu cette promesse du royaume, comme je disais, qui y sont entrées par la foi, et à qui on explique à quoi cette nouvelle citoyenneté doit faire face, cette nouveauté de vie, ce style du royaume. Voilà à quoi doit ressembler un citoyen du royaume. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, voilà à quoi ta vie doit ressembler. Voilà les qualités qui devraient te définir, qui devraient me définir pour être celle de la terre, lumière du monde. C'est tout un programme de vie. Les béatitudes, en deux parties selon certains commentateurs, celles qui concernent le chrétien avec Dieu de façon directe, les quatre premières, et celles qui concernent le chrétien avec son prochain, les quatre suivantes. C'est des attitudes du vrai disciple, ce qu'on appelle le chrétien authentique, celui qui adhère parce qu'il s'appelle chrétien, parce qu'il est petit Christ qui adhère à la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Ces attitudes sont la meilleure manière de vivre, non seulement parce qu'elles-mêmes, elles sont bonnes, mais en plus, à cause du résultat qu'elles produisent pour nous-mêmes et pour le prochain avec qui nous sommes en relation. Et Dieu récompense ces attitudes-là. Il les récompense ici et maintenant. Il les récompensera aussi dans l'au-delà, dans le ciel de Dieu. Regardons les quatre premières béatitudes pour aujourd'hui. Vas-y. Les quatre premières que je reprends. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Regardons la première béatitude. Vas-y, Aurélien. Heureux les pauvres en esprit. Ce verset, dans l'histoire des commentaires et des interprétations, a eu du mal à... Des fois, a été mal interprété parce que on a pris juste la première partie de cette expression, les pauvres. Et dans certains contextes, on a cru que c'est de la pauvreté matérielle qu'il s'agissait d'abord. Et on a fait pas mal de dégâts dans la vie de certaines communautés, de certaines personnes, avec cette compréhension. Finalement, être pauvre en esprit, c'est être pauvre de cœur. Le pauvre de cœur, le pauvre en esprit, consiste à reconnaître notre pauvreté spirituelle. Personne d'entre nous ne peut être riche devant Dieu, spirituellement parlant. Nous sommes tous pauvres. Le pauvre, dans la conception de la pauvreté, c'est celui qui manque de tout et qui a besoin qu'on lui vienne en aide. Spirituellement, nous manquons de tout. Spirituellement, nous manquons de tout. Bien pire, nous étions morts à cause du péché. Nous étions morts à cause du péché. Il s'agit non pas de cette pauvreté matérielle, il s'agit de ceux qui placent humblement leur confiance en Dieu. Être pauvre de cœur ou en esprit consiste à reconnaître notre pauvreté spirituelle devant Dieu, car nous sommes des pécheurs méritant que la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Nous n'avons rien à offrir à Dieu. La Bible dit, c'est pas par nos œuvres, car nos œuvres, par définition, elles ne peuvent pas combler la gravité, l'ampleur, la profondeur du péché qui nous a atteints. nous n'avons rien à faire valoir, rien qui puisse nous acheter la faveur du ciel. La caractéristique que Jésus attend de ses disciples, c'est cette lucidité, cette humilité qui fait que chaque jour, le chrétien, la chrétienne, reviendra pour se laisser enrichir par Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour les gens qui sont comme les petits-enfants, qui dépendent de Dieu, qui savent que sans Dieu, ils ne peuvent pas être agréables, agréés. Et que même, j'en ai déjà parlé, le bien qui reste encore en nous, qui reste encore dans des personnes qui ne sont pas chrétiennes, c'est encore la grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas gardé le bien, même dans les vies, dans nos vies, quand nous ne le connaissions pas, le monde serait un chaos sans nom. Regardez, nous sommes en plein 21e siècle et nous avons encore des guerres. On avait pensé que l'Europe serait épargnée de guerres après les guerres qu'il y a eu il y a 10 ou 15 ans dans l'Europe de l'Est. Nous y revoilà à nouveau. Aucun continent n'est épargné. Et pourtant, nous sommes dans une civilisation hautement moderne. Nous avons la capacité d'inventer des choses merveilleuses. Nous sommes même capables aujourd'hui de voir dans l'univers ce que nous n'étions pas capables de faire. Il y a une centaine d'années, nous sommes capables de déceler de nouvelles météorites, de nouvelles exoplanètes. Nous sommes capables d'envoyer des appareils électroniques à plus de 20 ans de là où nous habitons. La sonde qu'on a déposée sur Mars a fait 20 ans pour y arriver. Mais on a été capable de faire ça. On est incroyable. Et pourtant, on ne dépend pas de Dieu. On dépend de nous-mêmes. On se croit riche. On se croit, en tant qu'être humain, ne pas avoir besoin de Dieu. On se suffit à nous-mêmes. Nous nous suffisons à nous-mêmes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres en esprit. Ceux qui ont reconnu que de par eux-mêmes, de par leurs œuvres, aussi belles soient-elles, ils sont toujours incapables d'être parfaits. Notre humanité en est convaincue que même il y a des expressions qui le disent, nul n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. On le dit de façon tellement ordinaire. Mais quelquefois, on n'en est pas convaincu parce que vous savez, les expressions, à force de les utiliser, ça devient des formalités. Mais celle-là, elle dit la vérité. Si nul n'est parfait, nul ne peut atteindre à Dieu, nul ne peut se priver de Dieu. Nul ne peut se priver de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. La première caractéristique que Jésus attend de ses disciples, c'est cette lucidité, cette humilité. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Vous savez, quelquefois, je me dis ça et je dis, Seigneur, quand même, des fois, je peux des choses sans toi. Le Seigneur me dit, dis-moi. Tu vois, quand je me lève, je peux faire des choses sans te prier. Il dit, oui, mais quand tu t'es levé, c'est parce que je t'ai laissé le sceau de vie. J'étais capable, dans la nuit, de t'arracher le sceau de vie. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Donc, quand nous nous réveillons les matins, vous savez, dormir, c'est dans une semi-mort. Quand on dort, on est un peu mort. Parce qu'on ne réagit à rien autour de nous. C'est ça, la mort. Quand on est mort, on ne réagit plus à rien. On n'est plus en contact avec le vivant. Et quand nous dormons, nous sommes un peu morts. Parce que tout s'arrête. Notre corps est au repos. Il est dans une phase où il met tout au repos en nous. Et on n'est presque plus là. Jusqu'à ce qu'on se réveille. Et c'est quand il y a les cauchemars, là c'est pire. Quand ce cauchemar, on se débat pour se réveiller. Parce que là, tu dis, il faut que je me réveille, ça ne va plus du tout. Dans ce petit rêve qui me cauchemarde. Et quand on se réveille d'un cauchemar, oh, ouf, c'était qu'un cauchemar. C'était qu'un cauchemar. Je croyais que c'était la réalité. Ah, je me suis... C'était qu'un cauchemar. Donc le Seigneur me dit, Serge, quand tu te réveilles, c'est ma grâce. C'est ma grâce. Donc si tu dis que je peux faire des choses sans Dieu, tu te trompes. Tu te trompes. Et même quand nous arrivons à dormir, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont des pannes de sommeil. C'est une pathologie. Ils cherchent à dormir. Ils n'y arrivent pas. Parfois, on les assomme de somnifères pour qu'ils trouvent le sommeil. Il y en a qui ont le sommeil léger. Il suffit juste d'un petit bruit dans la maison. Quand ils se réveillent, ils ont du mal à retrouver le sommeil. Donc, quand vous dormez, dites « Seigneur, merci, parce qu'au moins, j'arrive à dormir et à récupérer. » Là aussi, ce n'est qu'une grâce de Dieu, les bien-aimés. Même là, c'est la grâce de Dieu. Et c'est cette lucidité sur nous-mêmes, c'est cette humilité que Jésus appelle ici. Pauvre en esprit, c'est d'être lucide. Que finalement, on a l'impression qu'on est autonome, mais qu'en fait, on dépend de Dieu, de sa bonne grâce. Heureusement que Dieu est bon. Heureusement que Dieu est bon. Heureusement que Dieu est bon. Ceux qui adoptent cette attitude font partie du peuple de Dieu. Le royaume des cieux est à eux. C'est dans le royaume des cieux qu'on trouve ce type de personne. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, si je suis chrétien, cette dépendance à Dieu, cette lucidité sur moi-même, cette humilité de dépendre de Dieu, fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi un citoyen du royaume de Dieu. Pour ceux qui sont des enfants de Dieu, ils ont appris le secret de la dépendance totale de Dieu, qui aboutit à une obéissance totale à sa parole. Il dit, ne joue pas le sage, ne crois pas que tu sais tout. Et cela sera une sagesse pour toi. Parce que celui qui sait tout, il ne va plus chercher le conseil. Il ne va plus demander conseil. Parce qu'il sait tout. Mais celui qui sait qu'il ne sait pas, il est toujours en train de demander à Dieu sa grâce, sa sagesse, ses lumières. Il est régulièrement en train de revenir à la parole de Dieu pour laisser Dieu l'enrichir de sa sagesse. La deuxième béatitude, vas-y Aurélien. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Qu'est-ce que ça veut dire? La diapo suivante. Ici, Jésus ne parle pas du chagrin ou de la peine causée par la perte d'un ami ou d'un drame quelconque, parce que affligé est aussi traduit par ceux qui pleurent. Mais il parle de ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à Dieu. Il s'agit aussi de reconnaître notre fragilité, notre besoin, et pleurer pour les autres aussi, avoir de la compassion. Nous devrions pleurer sur le mal qui règne dans le monde. Et Dieu seul sait. Et Dieu seul sait. Vous savez, c'est quand on perd la paix, en tout cas la tranquillité d'une vie quotidienne, qu'on voit l'importance que cette tranquillité avait. Il y a encore quelques semaines, ceux qui habitaient en Ukraine, malgré tout ce qu'on disait autour, ne pouvaient pas imaginer qu'il y aurait eu ce déchaînement de violence. Et nous devons pleurer pour ce genre de situation. Nous devons être affligés. Nous devons être tristes parce que des fois, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Je suis pas un politicien. Je suis juste un humain. Je me demande au nom de quoi. Aujourd'hui, des enfants, des familles sont dans la rue, dans la nature, en train de chercher une autre maison, un autre foyer, une autre. Au nom de quoi? Au nom de quoi? On a mis tous ces gens sur les routes de l'exil. Au nom de quoi? Jésus parle de ceux qui pleurent à cause de la tristesse de leur propre repentance. Le péché ne doit jamais nous laisser joyeux, c'est pas possible. Quand on est un chrétien, le mal que Dieu appelle le péché doit toujours nous attrister. Si vous commencez à ne pas être attristé par le péché, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Parce que le péché, par définition, vous fait du mal à vous-même, fait du mal à votre relation avec Dieu et fait du mal à ceux que vous aimez. Heureux les affligés peut aussi être associé à la conscience des actes mauvais et leurs conséquences. C'est pourquoi les lamentations accompagnent souvent la repentance. Elles procèdent d'une reconnaissance authentique de son propre péché ou de celui de la société. Cette attitude peut résulter d'un enseignement correct, d'un bon exemple, des conséquences tragiques du style de vie qu'on a mené ou d'une brusque prise de conscience de la pureté de la sainteté de Dieu. Ésaïe vit le Seigneur et s'écria dans la douleur, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai vu un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » En fait, quelquefois, dans notre 21e siècle, on a le sentiment que nous qui sommes chrétiens, que très peu d'entre nous réalisons encore la gravité du péché. Et que trop souvent, on passe vite fait sur des choses qui sont nommées péchés par Dieu. Et à peine si nos larmes même coulent quand nous vivons ces genres de situations. Parfois, à force de trop mettre l'accent sur la grâce de Dieu, on minimise la gravité du péché. La grâce de Dieu est là parce que justement le péché est grave. Le péché est tellement grave que rien ne peut le combler, ne peut le solutionner, sauf la grâce de Dieu. C'est ça, la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a aucune solution pour apporter une réponse au péché, si ce n'est la grâce de Dieu. Donc, c'est tellement grave qu'on n'a pas de solution pour ça. Les décisions et les actions personnelles révèlent un catalogue d'activités humaines qui devraient nous attrister profondément. Ceux qui vivent une telle vie sont bénis parce qu'ils reçoivent la consolation de Dieu. Quand je suis triste pour mon propre péché, ça m'ouvre les bras d'amour de Dieu. Parce que Dieu sait que je ne peux pas moi-même. Mais il voit toute la tristesse et tout le combat qui est en moi et il vient à mon secours. Et ça rejoint la première béatitude. Parce que je suis pauvre et que je ne peux pas m'en sortir, Dieu vient à mon secours. Vous savez, si vous n'avez jamais connu la disette, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que la pauvreté. Parfois, les épreuves qui arrivent dans nos familles sont laissées par Dieu pour que nous connaissions, pour que nous fassions, pour que quelquefois l'expérience du manque soit dans notre vie, pour qu'on sache ce que c'est que le manque. Dans mon contexte d'enfance, on a connu des journées où des fois, avec toute la bonne volonté de nos parents, on ne savait pas si on aurait de quoi manger. Mais ma mère est une femme brave. Mais il y a des périodes, on s'en souvient tous, où c'était particulier. C'était particulier. Quand j'étais à l'université, j'étais boursier d'État, mais c'était aussi dur. Parce que j'avais des amis qui n'étaient pas boursiers, qui venaient de provinces très lointaines, de petits villages dont les parents étaient paysans, et qui n'avaient pas de quoi vivre chaque jour sur le campus. On se cotisait comme on pouvait pour les soulager. Je me souviens de l'un d'entre eux qui, au bout du premier trimestre, a tout abandonné et reparti au village. Parce qu'il ne pouvait pas simplement, il n'avait pas les moyens, il ne pouvait pas continuer. Heureux ceux qui pleurent sur ce type de situation. On ne peut pas tout résoudre, on n'a pas la force de tout résoudre. Mais ça ne doit pas nous laisser indifférents. C'est ça que Jésus dit. Un chrétien ne doit pas rester indifférent à ces choses. S'il n'a pas les moyens, au moins il a le moyen de prier intensément pour que Dieu apporte une solution à cette personne. Là, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Ukraine? On n'a pas de force. On pourra, peut-être quand il va avoir des actions, apporter un peu d'argent pour que les églises d'Ukraine puissent soulager, oui. Mais la plus grande chose qu'on peut faire. On était en conférence mondiale avec notre collègue au niveau d'ITIA, parce qu'on a une conférence mensuelle avec notre responsable aux États-Unis, par vidéoconférence. Et l'un de nos collègues s'appelle Anthony, que j'ai connu en 2019 quand je suis allé à cette conférence dans l'Iowa, à Ems. Un jeune homme plein de vie. Mais lui, il était tellement lucide, il savait que son pays courait un tel danger. Il nous en parlait, hein, lors de ses conférences depuis 2019. On l'a eu ce vendredi. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner pendant qu'il nous donnait quelques éléments, comment il s'organisait pour venir en aide aux chrétiens, même aux non-chrétiens. À un moment donné, il a dit, je dois vous laisser, parce que là, vous voyez, mon téléphone ne fait que sonner. Et un de nos collègues lui a dit, mais comment on peut faire pour vous aider? Il dit, actuellement, vous pouvez pas nous aider. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans 2 semaines, on saura. Peut-être dans 3 mois. Dans 3 semaines. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. La seule chose que vous pouvez faire pour nous, pour l'instant, c'est de prier. Wow. Si on est attristé par ces choses, on doit avoir la force de prier. De prier. De prier. Quand des situations difficiles arrivent, qui sont liées au péché ou à d'autres épreuves, nous devons prier, bien-aimés. Parce que c'est Dieu qui console, c'est Dieu qui apporte la solution ultime, c'est lui. Et justement, quand nous prions pour ce genre de situation, si c'est un péché, Dieu nous montre la solution pour nous tirer d'affaire, parce qu'il nous pardonne, il nous renouvelle. Il nous dit, mon fils, comme au fils prodigue, il prend soin de nous, il nous restaure. C'est ça qu'on appelle Dieu nous console. Et même quand nous n'avons pas de solution, quand il s'agit d'épreuves, de personnes qui sont loin ou de situations loin, la prière, l'état de nos cœurs qui se repentent comme un parfum devant Dieu, Dieu s'en saisit pour consoler nos bien-aimés, pour les soulager, pour leur faire grâce. Je prie que le Saint-Esprit fasse de nous, nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, citoyens du royaume de Dieu, des gens, des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes, dont le cœur reste sensible au péché, reste sensible aux épreuves, reste sensible au mal qui règne dans le monde. Martin Luther King Jr. a dit, C'est pas la violence du méchant qui me fait mal, parce que de toutes les façons, il est méchant et sa violence, c'est un peu naturel. Il dit, c'est l'indifférence des justes. C'est-à-dire ceux qui savent que cette situation n'est pas normale, mais qui ne font rien. Et qui ne disent rien. Il dit, c'est ça ma souffrance. C'est ça ma souffrance. C'est ça ma souffrance. Quand il a fait la marche de Selma, où il y a eu vraiment des choses horribles, des chiens qui ont été lâchés sur les jeunes noirs, on les a arrêtés, et qu'on l'a emprisonné. Il dit, les chefs religieux sont venus le voir, et lui ont dit, avant que tu commences tes choses-là, on était en paix. Et Martin Luther King a dit, la paix, c'est pas l'absence de conflit. Quand des lois sont injustes, c'est pas une vraie paix. Quand il y a de l'injustice, et qu'il y a de la méchanceté, même s'il n'y a pas de tension, même s'il n'y a pas de conflit, ça ne peut pas être la paix. Cette paix-là, ce n'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu s'appelle le shalom. Le shalom de Dieu, c'est justice et paix. C'est les deux en même temps. Et nous devons être sensibles à ces choses. C'est pour cela que la troisième béatitude, heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux les débonnaires, ceux dont le cœur déborde de douceur. Les doux de cœur sont ceux qui se soumettent à Dieu sans résister. Ceux qui sont soumis à Dieu, dociles entre les mains de Dieu. Jésus ajoute que ceux qui sont doux hériteront la terre, n'est-ce pas? Dieu leur accordera la position qu'ils n'auront pas revendiquée pour eux. Cette douceur doit être aussi marquée par l'attention à l'autre, l'attention à la fragilité de l'autre. Il ne se laisse pas enflammer, emporter devant les provocations. Au contraire, la réponse de ceux qui sont doux est empreinte d'apaisement. Les doux sont des personnes qui ont la maîtrise d'eux-mêmes. Souvenez-vous que la maîtrise de soi est un fruit du Saint-Esprit. Et nous sommes des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Parfois, je me demande si vraiment cette assertion de la parole de Dieu est vraie pour nous. Des fois, je me demande, je vois que quelquefois, les chrétiens que nous sommes, on cherche la puissance de Dieu. On cherche que Dieu se révèle de façon extraordinaire. Et quand il s'agit de manifester les fruits de l'Esprit, je me pose des questions. Galates dit, ne marchez pas selon la chair, mais laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Car les œufs de la chair sont manifestes, mais les fruits de l'Esprit, les voici. Heureux les doux, ceux qui sont malléables entre les mains de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en nous, laissons l'Esprit de Dieu nous pousser, nous conduire à manifester ces fruits-là, notamment la maîtrise de soi. Cette maîtrise nous permet de ne pas nous laisser dépasser par la colère. Le psaume 37 dit, ne laisse pas la colère te dominer, ne t'enflamme pas contre le méchant, car ça serait mal fait. Si tu n'y prends garde, cette colère te mettra même en révolte contre Dieu. Et les épîtres disent, si tu te mets en colère, veille sur toi-même. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Parce que ça serait cultiver quelque chose. Ça serait cultiver quelque chose. C'est comme une cocotte minute qu'on n'arrête pas. Si elle continue de bouillir, cette cocotte-là, elle va littéralement exploser. Exploser. C'est pour ça que parfois sur des cocottes, il y a une petite manivelle pour laisser échapper un peu la vapeur. Parce qu'il y a une telle condensation de... Ça tue, hein, ces choses-là, ça. Parfois, quand on est trop en colère, on fait comme des soupapes de voiture. Parce qu'on a besoin de vacuer. Parce qu'on s'est rempli d'un truc, là. Oh. Le sang lui-même, il a viré au je ne sais plus à quelle couleur, il est plus rouge, mais en tout cas. D'après les spécialistes, je peux me tromper, je ne me souviens plus de mes notes, mais on dit pour sourire, en fait, pour sourire, on mobilise que 3 muscles du visage. Mais pour se mettre en colère, je ne me souviens plus du nombre de muscles qu'on sollicite pour le visage. Mais vous voyez le visage de quelqu'un en colère? Vous pouvez voir combien de muscles il sollicite pour se mettre en colère. Oh! C'est épuisant, hein, se mettre en colère. C'est épuisant. À la fin, t'es fatigué. À la fin, t'es fatigué. Heureux ceux qui sont doux de cœur. C'était une qualité avant des chrétiens, la douceur. Avant, c'était une qualité des chrétiens. C'est pour ça que Dieu dit qu'ils auront la terre en héritage, parce que Dieu n'a pas de crainte. S'ils sont doux, il sait qu'ils ne vont pas faire des choses par égoïsme, ni par supériorité. Mais c'est des gens qui sont doux. L'apôtre Pierre pouvait dire, parlant aux femmes dans sa première épître, chapitre 3, verset 4, « Recherchez non pas la beauté qui donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, Oui, il faut chercher ça aussi quand on est une femme. Il dit, mais pas que ça. Mais rechercher celle qui émane de l'être intérieur. La beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. À laquelle Dieu attache un grand prix. C'est vrai qu'on a tendance à confondre douceur et faiblesse. La faiblesse se caractérise par l'indécision, l'absence de force morale ou physique, la peur et une faible estime de soi. Ce ne sont pas là des vertus dont Jésus fait l'éloge. Il parle pas de faiblesse, il parle de douceur, c'est toute autre chose. Jésus est doux, mais Jésus est ferme dans ses convictions et dans ses actions. Et c'est pour ça, lis les évangiles, ça nous donne le vrai modèle de Jésus. Vas-y, s'il te plaît. Enfin, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Oui, vas-y. C'est d'abord le désir profond d'être en bonne relation avec Dieu. C'est la justification. C'est la justice qui nous rend juste au jeu de Dieu d'abord. Heureux ceux qui cherchent à être dans cette justice de Dieu, à être en paix avec Dieu. N'est-ce pas? Être trouvé juste devant Dieu, le rétablissement de la relation avec Dieu. Ça passe par la foi que nous saisissons, par la grâce de Dieu, par l'impactation de la parole de Dieu dans nos vies, cette relation qui se rétablit et qui progresse dans cette justice avec Dieu. N'est-ce pas? Aussi, les chrétiens sont exhortés à rechercher la justice pour toute la société. Libération de l'oppression, les promotions des droits, l'intégrité dans les affaires, l'encouragement à une conduite honorable dans le foyer et dans les affaires familiales. Cette question de justice, je reviendrai dessus peut-être un autre jour. Ça a été l'objet de mon voyage missionnaire parce que la réflexion aujourd'hui, c'est de dire le contexte mondial est tellement en tension dans beaucoup de nos pays que nous voulons redit que nous sommes celle de la terre et lumière du monde. Mais on ne sait pas toujours comment le faire. Et on n'a pas toujours été des exemples en la matière. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La faim et la soif de la justice correspond à ce désir saint. Car Dieu s'engage à combler ceux qui sont dans cette manifestation de faim et de soif de la justice. Ceux qui cherchent toujours à être en bonne relation avec Dieu, mais qui cherchent aussi toujours à être en bonne relation dans la société. À être des gens justes, finalement. Et ça passe par des petites choses. Est-ce que je suis juste avec mon épouse? Est-ce que je suis juste avec mes enfants? Vous savez, parfois, notre position nous donne une petite autorité. Si on ne l'examine pas, parfois on fait des choses qui ne sont pas justes. De dire, c'est moi qui suis le Père. Oui, tu es le Père, c'est une vérité. Mais il faut que le Père soit juste. Pourquoi Dieu va être capable de nous juger justement? Parce qu'il est Dieu, mais qu'il est juste. Et qu'on ne pourra rien lui reprocher, parce qu'il est juste. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu impartial, c'est un Dieu impartial. C'est pour ça qu'il fait tout pour qu'au jour du jugement dernier, que personne n'a lui reprocher, quoi que ce soit. Il est Dieu, et pourtant, il est juste. Ayons faim et soif de justice dans tous les domaines, dans tous les aspects de nos vies. Ayons faim et soif de justice. Voilà, bien-aimés, pour ce matin, quelques encouragements dans une situation de notre monde qui nous a rattrapés. Les guerres et les conflits étaient loin de ce continent. Nous étions des donneurs de leçons et même nous étions des aidants dans certains conflits. Et là, on ne sait même pas ce qui va arriver à l'Europe dans quelques semaines. On a prédit que ça n'arriverait pas. On a tout fait pour que ça n'arrive pas. C'est arrivé. Mais ça ne doit pas nous faire peur, parce que Jésus l'avait déjà prédit. Ça doit nous donner confiance en Dieu et de prier le Seigneur pour que sa grâce soit toujours là. C'est ça, nous sommes des intercesseurs, nous sommes la sentinelle. On a chanté, n'est-ce pas? Viens bénir nos nations, nos quartiers, nos villages. Nous sommes la sentinelle. Et nous devons prier pour ces situations, mais continuer d'être vraiment des hommes et des femmes transformés par le Saint-Esprit pour que nos vies soient caractérisées par ces quatre béatitudes que nous venons de voir. Que nos vies soient caractérisées par ces quatre béatitudes. Les quatre autres, nous les verrons prochainement. Merci Seigneur. Amen.